Eh bien, chers amis, depuis une dizaine d'années, un plan satanique de déchristianisation se poursuit dans notre catholique province de Québec. Nous avons à déplorer, entre autres, l'étatisation de nos écoles, puis leur déconfessionnalisation, l'engagement de professeurs athées et vicieux, la mixité, l'enseignement de la sexologie poussé délibérément jusqu'à l'obsession, le remplacement du catéchisme par une catéchèse protestante, les sources de corruption, les occasions de péché multipliées, etc. Des parents catholiques, désolés de cette situation, voudraient retirer leurs enfants de l'école. Ils se voient menacés d'amende ou de prison au nom de la loi de la scolarité obligatoire. Comment corriger cette situation? Certains se tournent vers l'idée d'un nouveau parti politique pour s'emparer du pouvoir. C'est le cas de Léo Tremblay avec son Parti national chrétien. Nous, du journal Vert Demain, forts d'une expérience durement apprise, nous disons non. La politisation d'une grande idée, comme celle des écoles, comme celle de la justice distributive chère aux créditistes, ne font que créer une division de plus dans le peuple. Soulevés contre la promotion de cette idée, les adhérents des autres partis, alors que tous les catholiques, tous les patriotes devraient s'unir en une force qui s'impose, quel que soit le parti au pouvoir. Force qui vaut certainement par le nombre, mais plus encore par la qualité, la vertu, le don de soi de ceux qui la composent. Si une telle force avait existé à un degré suffisant dans le peuple de notre province dans les années que nous venons de vivre, aucun gouvernement d'aucun parti n'aurait pu même songer à chambarder notre système scolaire confessionnel. Le Bill 21 de déconfessionnalisation par l'Union nationale n'aurait pas vu le jour parce que le Bill 60 d'étatisation par le Parti libéral ne l'aurait pas vu avant lui. En 1820, nos pères souffraient encore des suites de la conquête de la Nouvelle-France par l'Angleterre anglicisante et protestantisante. Ils étaient privés de liberté politique et dénués de richesses matérielles. Leur vie était dure, autrement dure que la nôtre. Et lorsque la Royal Institution offrit à cette population pauvre et en grand besoin d'école, un système scolaire gratuit, défrayé par le conquérant, mais neutre. La tentation de l'accepter pouvait être grande. Elle gagna même un moment l'assentiment de l'embryon de représentants du peuple à pouvoir très limité. Mais ce peuple pauvre avait une foi catholique solide et des pasteurs vigilants. Et ce fut un non à cette offre si alléchante au seul point de vue temporel, comme ce fut encore un non pour la même raison 25 années plus tard. Une gratuité conditionnée par la neutralité? Non, deux fois non, fut la réponse de ce petit peuple. On fera les sacrifices qu'il faudra pour avoir les écoles et l'instruction que l'on pourra, mais cette instruction doit être d'abord catholique, ou bien elle ne mérite pas qu'on la recherche. Voilà une force chez notre peuple pauvre et opprimé d'il y a un siècle et demi, une force qui fait terriblement défaut chez ses descendants enrichis et politiquement libres d'aujourd'hui. Ce ne sont pas des partis politiques ni des élections qui ont manqué à ces enrichis et à ces libérés. Et ce n'est pas l'addition d'un nouveau parti qui recréera cette force, ni des campagnes électorales qui l'alimenteront. Que peut devenir une cause quand on accroche son sort aux aléas de la politique électorale? Sa valeur devra-t-elle être jugée selon la proportion du vote accordé au parti auquel on l'aura assimilé? Advenant un succès partiel du nouveau parti, l'élection de ces quelques candidats pourra bien l'avoir été au détriment du moins à gauche des vieux partis, ce qui aurait pour résultat de remettre au pouvoir le Parti libéral, celui-là même qui a jeté à terre le système scolaire des parents et de l'Église pour en faire un système scolaire d'État, et même un succès électoral complet donnant le pouvoir au nouveau parti pourrait-il réussir mieux? Que pourrait-il faire contre un fonctionnarisme solidement établi, plus fort que les députations qui passent? Puis le nouveau parti, arrivé au pouvoir, ne pourrait-il pas essuyer une défaite dans une élection subséquente? Peut-on ainsi lier le sort d'une cause sacrée à des joutes de ce genre, dans lesquelles, c'est plus que démontré, les valeurs réelles ont moins de poids que les fonds électoraux, que la propagande dispendieuse des plus puissants moyens de diffusion, que le lavage des cerveaux, la folie des passions, l'idolâtrie de tribuns, les réputations surfaites à dessein de vedettes choisies ou agréées par des loges maçonniques qui ne votent pas, mais qui excellent dans l'art d'orienter la pratique du suffrage universel. Les grandes causes, comme celle des écoles, comme celle de la justice distributive par le crédit social, demande des apôtres, des militants, des dédiés, des donnés, des saints. La méthode de parti conduit à l'opposé. Elle porte les adhérents à mettre paresseusement leur confiance dans le gain d'une élection. Développement personnel du citoyen, zéro. Voici des candidats, dit le parti, aidez-les de votre argent, de votre agitation pendant 3 ou 4 semaines, faites-les gagner l'élection, puis vous n'aurez plus qu'à chanter victoire, vos élus feront le reste, bien payés, ils sauveront le pays. Pense-t-on que cela puisse contribuer à former la force permanente dans le peuple dont nous parlions tout à l'heure, force qui, elle, n'est ni jetée en fièvre quand vient une élection, ni mise au congélateur le lendemain. L'élection, c'est du transitoire. Le coup donné en passant n'a pas de lendemain. Quel que soit le parti gagnant, le peuple n'a pas plus de force après l'élection qu'auparavant pour contrecarrer l'influence qu'ont sur le gouvernement des forces qui n'ont pas besoin de se faire élire pour se faire servir. Puis, que vaut vraiment, pense-t-on vraiment qu'une agitation faisant face à d'autres agitations pendant 1 mois dans 4 ans, que le sacrifice de quelques dollars pour prendre part au jeu et que la déposition d'un bulletin dans une urne puisse suffire à sauver un peuple du vide religieux, du climat matérialiste et subversif, du culte de la chair et du sexe, du souffle luciférien qui règne dans des institutions où les parents doivent obligatoirement envoyer leurs enfants et d'où ces jeunes sortiront marqués pour la vie? Non, bien sûr, mais n'est-il pas attristant de voir comment l'optique électorale risque de faire perdre le sens des valeurs même à des esprits pourtant bien meublés de principes et convaincus de la gravité du mal qu'ils dénoncent? Au cours de ces réflexions sur la politique de parti et sur l'attitude adoptée par notre mouvement envers les partis, nous avons surtout parlé du nouveau parti de M. Léo Tremblay. Mais cela ne veut aucunement dire que les autres partis lui soient préférables. Oh, mais pas du tout! Mais les autres partis, les vieux partis par exemple, sont depuis longtemps classés, il y a moins à craindre que les créditistes authentiques de Verdemain soient assez médusés par ces vieux partis pour leur donner du temps ou de l'argent. Quant à l'autre parti nouveau, celui de René Lévesque, Gilles Grégoire et consorts, dès sa naissance, avant même d'avoir reçu un nom, il puait déjà. La cause des écoles tient au cœur des créditistes de Verdemain. Ils la servent d'ailleurs magnifiquement par leur œuvre d'apostolat, d'éducation, de formation de patriotes et de catholiques prêts à tout pour défendre les valeurs de leur patrie et de leur foi. Nos pèlerins de Saint-Michel se donnent à cet apostolat sans relâche, sans la moindre recherche de rémunération personnelle, ni en argent, ni en honneur, ni en louange, pas même en bénédiction spéciale. Ils ont même essuyé le contraire assez souvent pour être cuirassés contre le danger d'en faire une maladie de cœur ou de tête. Mais justement parce que la cause des écoles leur est chère, nous devons mettre nos créditistes en garde contre le danger de se laisser séduire par tout appel fait sous son nom pour des voix, par des voix d'autres enseignes. Les créditistes n'ont pas à chercher ailleurs que dans leur mouvement des moyens de bien servir une cause sacrée, certainement pas à descendre du niveau élevé et pur sur lequel ils mènent leur combat vers les bourbiers des partis politiques. Tout ce dont les créditistes de Verdemain peuvent disposer en temps, en argent et en quelque autre forme d'aide, ils le donnent à leur mouvement, qui est un mouvement unique. Dans la lutte pour rendre les écoles aux familles, il est le seul qui attaque un système financier dont les effets servent à l'État de prétexte pour se substituer aux parents. Le seul mouvement qui présente une formule financière pour rendre les familles capables de s'acquitter elles-mêmes des fonctions qui sont les leurs propres. Un système financier qui permette de répondre aux justes aspirations des personnes, des familles, de la société, tant que c'est physiquement réalisable, sans avoir à endetter cette génération ni les générations futures. Mais notre mouvement présente aussi un trait remarquable et remarqué. Il a réussi à édifier une force d'hommes et de femmes qui savent se dévouer individuellement pour un objectif concerté, donner de leur temps, de leur personne, de leurs biens, sans rémunération matérielle. C'est là une force que peuvent convoiter des partis politiques ou d'autres organisations qui aimeraient bien en tirer avantage pour leurs propres fins, d'où leurs approches, par eux-mêmes ou par intermédiaire, avec des compliments, puis avec des arguments, pour souligner ce qu'il peut y avoir de similitude ou de parenté entre leur fin et la nôtre. Cela pour se faire aider par des membres de notre mouvement, alors que notre mouvement n'a jamais reçu d'eux la moindre assistance. C'est du parasitisme que nous ne pouvons jamais tolérer. Notre force est le fruit d'années d'enseignement, de sacrifice, de ténacité. C'est un bien appartenant à l'œuvre de Verdemain, et chaque membre de notre mouvement a le devoir de la préserver contre toute déviation. Il se dit, le mouvement auquel j'appartiens a besoin de tout ce dont je suis capable, tout ce que je peux fournir en temps, en argent, en travail personnel, et je considérerais comme un détournement, un déshonneur, une injustice d'en consacrer la moindre partie au service d'un candidat, d'un agent de candidat, d'une organisation de candidat. Je me bornerai strictement à déposer un bulletin de vote le jour de l'élection si le juge à propos et pour qui je juge à propos. Au-delà de cela, absolument rien. Et je suis convaincu qu'en suivant cette ligne de conduite et en réservant toutes mes possibilités pour une œuvre qui transcende les partis et les luttes électorales, je sers excellemment ma patrie.